avec une thématique qu'il faut aborder parce qu'elle est importante. Si je vous dis agenre, pangenre, genre queer, genre fluide, genre non conforme, ou encore cisgenre ou transgenre, vous allez me dire qu'il s'agit de classification. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il s'agit de personne. Bonsoir Caroline Eliachef.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous publiez avec Céline Masson La fabrique de l'enfant transgenre. Et quand je dis vous publiez, ça a été publié il y a presque une année maintenant.
Tout à fait.
Et en fait, ma première question, ça aurait été comment allez-vous ?
Très bien.
Depuis
merci.
La publication de ce livre.
Je Parce vais que extrêmement
il
bien.
S'est passé quand même deux, trois petites choses après la publication de ce livre.
Oui, tout à fait. Alors, il s'est, effectivement, quand un livre sort, on en a parlé. Puis nous avons eu quelques petits problèmes pour aller parler non, là où nous étions invités.
Vous avez été stigmatisés, littéralement.
Oui, alors, il y a deux aspects. On peut dire qu'on a été stigmatisés par un certain nombre de personnes, mais parallèlement, nous avons été rejoints par beaucoup de personnes. Donc, je crois que nous considérons sur ce sujet comme des lanceurs d'alerte. Et je pense que l'alerte a été entendue. Donc, je vais très bien, je vous remercie.
Ben oui, alors en attendant, vous allez très bien. Mais le conseil scientifique de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT a été dissous, justement pour des questions que vous avez abordées.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que selon les personnes qui parlent donc de cette dissolution du conseil scientifique de la DILCRA, selon la personne qui en parle, les avis sont divergents. Pour ce qui nous concerne, effectivement, on a eu quelques petits problèmes avec la DILCRA et je pense que nous ne sommes pas totalement étrangères à cette dissolution. Enfin, c'est des grandes personnes, qu'elles prennent leurs responsabilités.
En attendant, est-ce que le message que vous voulez faire passer, c'est-à-dire tout simplement, attention à ce que vous faites quand vous avez 15 ans, quand vous avez 16 ans, quand vous êtes mal dans votre peau, que vous pensez être une femme lorsque vous êtes un homme ou inversement. Attention à ce que vous faites et aux conséquences. Est-ce que ce message passe ? Est-ce qu'il est compris ?
Alors, ce message, nous voulons le faire passer essentiellement auprès des médecins qui prennent en charge ces jeunes. Puisque moi, je n'ai aucune critique par rapport à aucun jeune qui se déclare. Ils se déclarent ce qu'ils veulent. Alors, premièrement, ce sont des jeunes souvent qui souffrent. Donc, je suis tout à fait respectueuse d'une part des jeunes et de leur souffrance. Ce que nous critiquons et là où nous lançons une alerte, c'est la réponse qui leur est donnée.
Oui, mais Caroline Eliachef, votre réponse à vous, en l'occurrence, avant de parler aux médecins, mais quand on parle aux jeunes, c'est justement, on peut en parler avant de prendre des décisions qui sont, il faut le dire, irréversible.
Oui, effectivement, certaines choses sont irréversibles. On peut en parler. Encore faut-il trouver des jeunes qui veuillent bien en parler. Mais il me semble quand même que l'attitude dite transaffirmative des médecins est tout à fait problématique. C'est-à-dire que quand un jeune arrive en disant « j'ai fait mon propre diagnostic », c'est quand même le seul domaine en médecine où vous arrivez devant le médecin en disant « je sais ce que j'ai ». Si vous allez voir un médecin et que vous dites « j'ai une angine », il va quand même vous examiner la gorge. Quand un jeune arrive... Et encore une fois, je n'ai aucune critique par rapport à ces jeunes en disant « je suis trans et j'ai vu sur les réseaux sociaux ce qu'il faut vous dire pour que vous m'approuviez ». Et que certains médecins, encore une fois, je ne veux pas généraliser, disent « mais puisque tu te ressens trans, je vais t'aider dans ta transition rapidement ». Voilà, c'est ça, c'est là-dessus qu'il y a un réel problème. Je précise quand même que pour les personnes adultes, il y a toujours eu des personnes trans dans toutes les sociétés qui étaient en nombre absolument infime. Quand ces personnes adultes allaient voir des médecins, ça prenait pas deux consultations, ça prenait un à deux ans. Tous les médecins qui ont suivi ces personnes adultes le disent. Donc c'est quand même absolument extraordinaire que pour des jeunes, on se précipite pour accélérer ou pour aller trop vite sur leur transition.
Quand vous dites trop vite, quelle est la motivation de ces médecins dont vous parlez ? C'est l'argent ?
Je ne sais pas si je le dirais comme ça. Alors, qu'il y ait des enjeux financiers au niveau des laboratoires, c'est évident. Quand il va falloir prendre des hormones à vie, il n'y a pas tellement d'affections médicales où, si vous êtes diagnostiqué à 15 ans, vous allez prendre des médicaments jusqu'à la fin de votre vie.
Mais il y a des actes chirurgicaux aussi. Donc
il y a des actes chirurgicaux.
Le praticien est là quand même derrière.
Voilà, donc ça fait quand même... Les médecins eux-mêmes, je ne me permettrai pas, car je n'en ai aucune preuve, d'accuser des médecins... enfin, de toucher de l'argent. Enfin, jamais je ne dirais ça.
Je pose la question de manière totalement candide.
Quel est l'enjeu ? Je pense que les médecins ont dans l'idée quand même de bien faire, non pas dans l'idée de nuire à ces jeunes. Or, il y a une vingtaine d'années, a été établi un protocole qui s'appelle le douche protocole, protocole transaffirmatif, c'est ça qu'il fallait faire. Sauf que ce protocole a été établi sur 50 jeunes à l'époque qui n'avaient aucun autre problème. Aujourd'hui, appliquer ce protocole alors que tout a changé, c'est-à-dire que ces jeunes ont des pathologies préexistantes, qu'il y a plus de filles que de garçons, qu'elles ont souvent subi des agressions, etc., etc. Appliquer ce même protocole alors qu'il ne convient plus, voilà, c'est ça le problème. Donc les médecins, en toute bonne foi, je crois, ont appliqué ce protocole qui date d'il y a 20 ans et qu'il faut revoir.
En parlant de médecins, vous citez un exemple. Au père d'une jeune fille qui menaçait de se suicider si on ne lui donnait pas un traitement hormonal, le médecin avait lancé « Préférez-vous une fille morte à un garçon vivant ?» Il le rendait responsable du suicide de sa fille s'il n'obtempérait pas.
Ça, c'est ce qu'un père nous a... C'est une des premières personnes qui nous a contactés. C'est un homme suisse qui nous a raconté ça. Mais d'autres personnes nous l'ont dit également. C'est-à-dire que tout parent... Parce qu'il faut, en tout cas en France encore, il faut l'autorisation des parents pour donner des hormones à des mineurs, comme pour tout traitement d'ailleurs. Tout parent qui n'adhère pas est considéré par certains médecins comme transphobe, voire maltraitant. Il y a quand même des médecins qui ont signalé des parents pour maltraitance parce qu'ils n'adhéraient pas. Pour maltraitance, pour transphobie, et des parents se sont retrouvés devant le juge pour enfants.
Et qu'est-ce qui se passe après devant le juge pour enfants ? C'est intéressant ce que vous dites.
Alors, ça dépend des pays.
En France.
Non, je vous dis ça parce qu'en Suisse, des enfants ont été séparés de leurs parents, placés, etc.
À quel âge ?
15-16 ans.
15-16 ans.
14-15 ans, mineurs. Mineurs, mais pas, disons, entre 12 et 16 ans. Alors, en France, c'est arrivé également, c'est rare. Et il faut être très prudent dans ces affaires, parce que c'est souvent compliqué. Voilà.
Et c'est intuitu familier, si j'allais dire.
Voilà. Ouais. Donc, ce sont des affaires complexes, avec des familles complexes. Et donc, personnellement, je ne porte pas de jugement sans savoir exactement ce qui se passe.
Je veux bien que vous ne portiez pas de jugement. En attendant, vous écrivez avec la co-auteure Céline Masson. Donc, vous donnez un point de vue, d'une certaine façon.
Ah oui, tout à fait.
Vous dites ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc,
écoutez,
je veux bien que vous ne vouliez pas porter de jugement à 19h26 sur Europe 1. En attendant, c'est difficile de ne pas parler du tout.
Alors, je ne porte pas de jugement, encore une fois, sur un cas particulier que je ne connaîtrai pas. Notre idée, quand même, est de dire, avec les mineurs, n'entreprenez rien de définitif, qui soit irréversible.
Alors, qu'est-ce qui n'est pas définitif ?
Voilà, qu'est-ce qui est irréversible ? Alors, on dit la transition sociale, c'est-à-dire le fait d'annoncer à ses parents qu'on est trans, de s'habiller en petit garçon, enfin en garçon quand on est fille, ou réciproquement. Pourquoi pas ? Après tout, ce n'est pas si grave. Alors nous disons, l'autoroute qui mène au bloqueur de puberté et aux hormones croisées. Encore une fois, autoroute lorsque tout le monde est d'accord, tout le monde à 100% est d'accord. L'école est d'accord, la famille est d'accord, les médecins sont d'accord, l'entourage est d'accord. Voilà, autrement dit, lorsque un jeune n'a plus aucune possibilité d'exprimer la moindre ambivalence. Ça déjà, c'est compliqué. Les bloqueurs de puberté, très rapidement, on nous dit, on met sur pause. Les enfants, ils ne sont pas sur pause. Donc, il y a des effets. Il y a, évidemment, la puberté va reprendre, mais il y a des choses qui sont irréversibles. Les hormones croisées, encore plus, en particulier la stérilité. Mais voilà, il y a la voix pour les filles, etc. Enfin, à chaque fois, il y a des effets secondaires. Et je précise que tous ces médicaments sont donnés dans ces indications-là, hors autorisation de mise sur le marché. Autrement dit, on n'a pas de preuve de leur efficacité.
À quel point le phénomène a été amplifié par les réseaux sociaux ?
À un point énorme. Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur. Ce sont des jeunes qui ne se sentent pas très bien, pour une raison ou pour une autre, qui, notamment au moment du confinement, ont énormément, encore plus que d'habitude, fréquenté les réseaux sociaux sans que les parents s'en soucient, parce que les parents eux-mêmes avaient autre chose à faire. Le rôle des réseaux sociaux est majeur. Les jeunes y rencontrent des influenceurs. Ils sont dirigés vers des associations transaffirmatives. On leur donne le mode d'emploi pour dire ce qu'il faut dire aux médecins, y compris de dire « si vous ne me donnez pas d'hormones, je vais me suicider ». Ils acquièrent le mode d'emploi et l'autodiagnostic sur les réseaux sociaux qui jouent un rôle majeur.
Au niveau de l'État, Caroline Leschef, on a parlé de la dissolution de la DILCRA, du conseil scientifique en tout cas de cette délégation. Quelle est la position des autorités sur cette question bien difficile?
Alors, le problème est la confusion entre lutte contre les discriminations, sur lesquelles tout le monde est d'accord, et nous bien sûr y compris, et protection de la jeunesse. Quand on mélange les deux, d'abord plus personne ne comprend rien, et les instances gouvernementales, d'une part, sont totalement infiltrées, et je le dis, par les transactivistes, d'une part, et d'autre part, il y a en permanence cette confusion. C'est-à-dire, si on refuse quelque chose à un jeune qui demande des hormones, on est transphobe, et donc, voilà.
Quand vous dites que les transactivistes ont infiltré les couloirs gouvernementaux, ils sont où? C'est qui? Comment ils font? C'est quoi? C'est du lobbying? Ce sont des fonctionnaires qui sont dans les administrations et qui font... Comment ça marche?
Mais il y en a partout.
Non, mais c'est vague, il y en a partout.
Alors ce sont des personnes qui occupent une fonction ou une autre et qui, par ailleurs, défendent la position selon laquelle les enfants doivent s'autodéterminer et qu'on ne peut pas leur refuser, à partir du moment où ils se ressentent garçons ou filles, on ne peut pas leur refuser des hormones et que des personnes comme nous sont qualifiées de transphobes, n'ont pas droit à la parole, etc. etc. Voilà, exemple la circulaire Blanquer à l'école, exemple ce qui se passe maintenant à la DILCRA. Et j'aurai encore bien d'autres exemples à vous citer. Partout, dans toutes les administrations, il y a des personnes qui défendent mordicus l'idée que l'enfant doit s'autodéterminer et que l'autorité parentale est un peu obsolète.
Donc vous souhaitez, j'imagine, des garde-fous, mais de quelle nature, de quelle forme, jusqu'où on pourrait aller?
Jusqu'où on pourrait aller? Alors, je crois qu'il y a un mouvement quand même qui se dessine. Ce mouvement... On a été en retard en France. On a commencé plus tard que les autres. C'est une chance. Arrêtons-nous plus tôt que les autres. Voyons ce qui se passe dans les autres pays. La Suède, la Finlande, l'Angleterre, qui nous précédaient, sont revenus en arrière. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que la France...
En légiférant, en mettant des textes de loi, carrément?
Alors, ça dépend. Ouais. Soit il y a des textes... C'est difficile. Les textes de loi, c'est difficile parce qu'il est difficile que ce soit les députés qui disent aux médecins ce qu'il faut faire. Mais, c'est difficile. On préférerait que ce soit les médecins eux-mêmes qui régulent cette affaire-là. Et il y a toutes sortes d'instances qui régulent les pratiques médicales. Voilà, d'autres pays sont revenus en arrière, n'appliquent plus le douche protocole, il est interdit, les bloqueurs de puberté sont interdits pour les mineurs, sauf cas particuliers. Les hormones croisées ne peuvent plus être données avant l'âge de 16 ans. Qu'est-ce qu'on attend?
Je me permets de remarquer que vous parlez des hormones croisées et des bloqueurs de puberté, vous ne parlez pas du tout des opérations chirurgicales.
Non, je veux bien parler des opérations chirurgicales. Que se passe-t-il en France? Les seules opérations autorisées pour les mineurs, car nous ne parlons que des mineurs, c'est les mastectomies, c'est-à-dire de se faire enlever les seins. Ces opérations ne sont pas interdites. Elles existent, donc des jeunes filles, la plus jeune en France à 14 ans, s'est fait enlever les seins. Les autres opérations ne sont pas pratiquées chez les mineurs.
C'est-à-dire qu'elles sont autorisées dans d'autres pays?
Oui, bien sûr.
Dans quel pays?
Aux États-Unis, par exemple.
Oui.
Aux États-Unis, par exemple.
Parce que ça, aux États-Unis, ce phénomène est accepté.
Tout à fait.
Par l'ensemble des citoyens américains?
Ah non, pas par l'ensemble des citoyens américains. Il y a des grosses bagarres aux États-Unis, État par État. Aux États-Unis, c'est extrêmement politique. C'est extrêmement politique, alors que dans les pays nordiques, et même chez nous, c'est plutôt les médecins qui tirent la sonnette d'alarme. Aux États-Unis, c'est politique. Donc, État par État, le gouverneur interdit et essaie d'interdire, et il est contesté...
Nous sommes à une heure de grande écoute, Caroline Eliashev, lorsque il y a beaucoup de parents qui nous écoutent là en ce moment, et peut-être même des enfants et des adolescents. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quelle est la porte d'entrée pour soumettre justement cette question-là? Est-ce qu'il y a des associations, celles que vous portez peut-être?
Oui, alors il y a d'abord des associations de parents. Il y a en particulier une association qui s'appelle Iopomeni, association de parents. Je conçois parfaitement que les parents soient d'abord sidérés, puis se renseignent, puis se demandent qu'est-ce qui serait le mieux pour leur enfant. Je conçois, parce qu'on nous le dit souvent, que les jeunes sont choqués par nos propos. Mais personnellement, je veux dire, quand on refuse quelque chose à un jeune, il est choqué, peut-être, mais peut-être s'en trouve-t-il mieux après. Donc ça ne me gêne pas du tout. Et les parents doivent savoir qu'il y a plusieurs manières de faire, et selon ce qu'ils choisissent, et personnellement, je ne critiquerai jamais un parent d'être comme ci ou comme ça, mais qu'au moins il se renseigne et qu'il sache qu'il y a plusieurs façons aujourd'hui d'envisager les choses, et qu'en particulier une attente, un jeune qui serait pris en charge et qui attendrait, eh bien, une étude a montré que 70 à plus de 90% d'entre eux arrivant à leur majorité réacceptent, on va dire, leur sexe de naissance, qui n'est pas assigné, contrairement à ce que disent les transactivistes, mais qui est constaté. Et vous n'avez pas besoin de constater à la naissance s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Je pense que vous et moi serions capables de le faire.
Merci beaucoup, Caroline Eliashev, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre avec Céline Masson, La fabrique de l'enfant transgenre. Des enfants, on va en parler encore jusqu'à 20h, des jeunes, avec la violence qui est de plus en plus radicale. On s'interroge avec les spécialistes. À tout de suite.